Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de QG où je reçois ce soir Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, titre où il a travaillé 30 ans, et fondateur du journal en ligne Orient 21. Spécialiste du Proche-Orient, il est l'auteur de nombreux essais sur le conflit israélo-palestinien et plus largement sur les relations entre l'Occident et le monde arabe. Il publie aujourd'hui un nouveau livre, « Au lien qui libère », Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Bonsoir Alain Grèche.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous.
Merci de m'inviter.
Sur l'antenne de QG. On va commencer par l'actualité immédiate, la plus brûlante. Il y a quelques jours, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé à ce que soient délivrés des mandats d'arrêt internationaux contre Messieurs Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, Monsieur Animaux Humains, et contre trois des principaux dirigeants du Hamas aussi, bien sûr, mais ça, c'était plus attendu, je dirais. Alors, quel est votre regard sur cet événement? Est-ce que c'est un vrai moment de bascule pour la Palestine? Ou est-ce que c'est un coup d'éclat qui pourrait tourner court?
C'est quand même un vrai moment pour le droit international avant d'être pour la Palestine. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait l'impression que le droit international, quand on en parlait en tous les cas en Europe, il pouvait concerner la Russie de Poutine, il pouvait concerner tel ou tel dictateur africain, mais il ne concernait pas les pays occidentaux, il ne concernait pas Israël. Donc de ce point de vue, c'est très important et c'est aussi un des éléments de la dégradation générale de l'image de marque d'Israël après 7 mois de guerre terrible à Gaza.
Alors, immédiatement, Benjamin Netanyahou, sans surprise, a qualifié le procureur de la Cour pénale internationale d'un des plus grands antisémites des temps modernes. Rien que ça, ce recours sans fin aux accusations d'antisémitisme pour couvrir toutes les atteintes au droit international d'Israël. Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre de son pouvoir de dissuasion, de sa crédibilité tout simplement? Et est-ce que tout de même à cet égard, on n'est pas en train de vivre un moment décisif?
Il faut rappeler ce que disait Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État américain, qui a joué un rôle important au Vietnam, au Chili, qui a été prix Nobel, mais qui était aussi un criminel de guerre, et qui a été beaucoup dans les négociations entre Israël, l'Égypte, pour essayer d'arriver à un accord. Et il disait sous forme de boutade, si vous êtes d'accord à 95% avec les Israéliens, vous êtes un dangereux antisémite. Et aujourd'hui, ça a pris des proportions incroyables, parce que, en fait, quand vous voyez les déclarations de Netanyahou, pratiquement tout le monde est antisémite. C'est-à-dire la Cour internationale de justice, l'ONU, la Cour pénale internationale, les pays qui viennent de reconnaître la Palestine, l'Amnesty internationale, les étudiants, etc. Et ce qui me frappe et que j'évoque dans le livre, c'est que ça se passe au moment même où le gouvernement Netanyahou et son parti développent des relations avec l'extrême droite est-européenne, même quand elle est antisémite. Et là, récemment, il y a eu un ministre israélien qui est allé au congrès des extrêmes droites, où est allé Marine Le Pen à Madrid, je crois, avec Vox, où il y a des gens qui professent de négationnisme, c'est-à-dire qui disent le génocide, ça n'a jamais existé, ça. Ce n'est pas un problème pour Israël du moment que ces partis soutiennent Israël. Et pourquoi ils soutiennent Israël? Parce que, pour eux, l'ennemi principal, c'est les musulmans, et que donc, du moment qu'on soutient Israël, et que le fait d'être antisémite n'est pas un problème. Il y a un chapitre dans le livre que j'ai intitulé « Bons et mauvais antisémites ». Voilà, c'est donc, mais effectivement, c'est en train de s'émousser, mais c'est pas seulement en train de s'émousser, c'est dangereux. Parce que du coup, ça minimise le vrai antisémitisme qui continue à exister dans la société française.
Qui explose.
Ouais. Oui, enfin, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a un antisémitisme traditionnel de la société française, même s'il a beaucoup évolué. Je veux dire, on est quand même un pays où on peut être président, premier ministre, occuper n'importe quelle responsabilité en étant juif, et tant mieux. Je veux dire, Maintenant, est-ce qu'il a explosé? Moi, j'ai une question. C'est-à-dire que, oui, chaque fois qu'il y a eu une guerre à Gaza, il y a eu des actes antisémites. Mais on n'arrive pas à obtenir du ministère de l'Intérieur la définition de qu'est-ce qu'un acte antisémite. Pour Netanyahou, la critique d'Israël est antisémite. Pour le CRIF ici, la critique d'Israël est antisémite. On peut avoir des slogans politiques, je veux dire, contestables. Par exemple, il faut un État en Cisjordanie, un État pour toute la Palestine, etc. Est-ce que ça, c'est antisémite? Il y a une espèce d'élargissement du champ de l'antisémitisme qui fait qu'il ne peut plus rien dire. Et encore une fois, ça permet à l'antisémitisme traditionnel de droite, etc., de continuer à exister et de se développer.
Alors, tout de même, j'ai l'impression qu'on observe une libération de la parole antisémite à l'occasion de cette intervention monstrueuse qui se déploie depuis 7 mois.
Réellement, il faudrait, c'est-à-dire, moi, j'aimerais bien qu'on me dise, beaucoup d'incidents qui sont rapportés sont des incidents où des Juifs se sentent agressés parce qu'un tel va leur crier la Palestine du fleuve à la mer ou il faut en finir avec l'État d'Israël. Mais c'est des slogans politiques, c'est pas des slogans antisémites. Il y a de l'antisémitisme, alors il y a l'antisémitisme traditionnel, il y a chez une partie des jeunes, peut-être français musulmans, un antisémitisme en partie religieux, comme il existait dans le catholicisme, et ce que Maxime Rodinson appelait le racisme de guerre, c'est-à-dire que votre ennemi est par essence un ennemi. Mais il y a aussi une autre chose qui est quand même qu'on ne souligne pas assez, c'est que quand on critique Israël a un double discours par rapport aux Juifs. Ils disent les Juifs ne sont pas responsables. Enfin, on entend ici, les Juifs ne sont pas responsables de l'action d'Israël, ce qui est tout à fait vrai.
C'est vrai.
C'est absolument vrai.
On est d'accord.
On est absolument d'accord ici. Mais en même temps, Israël dit nous représentons tous les Juifs du monde. Et nous acceptons, en tant que gouvernement français, qu'il y ait des jeunes Français israéliens qui aillent se battre à Gaza, sans doute qui commettent des crimes de guerre, qui vont revenir ici en se vantant de ce qu'ils ont fait. Et je dis, comment vous voulez qu'un jeune fasse la différence entre juifs, israéliens, sionistes, etc. Il y a une grande confusion.
Je pense qu'il faut continuer à la faire.
Ah, mais je suis d'accord, il faut se battre.
Il faut être extrêmement rigoureux sur ce point.
Non, mais je dis, il faut combattre l'antisémitisme. Simplement, je pense que là où on a fait une erreur importante, c'est dans la manifestation du 12 novembre. C'est-à-dire, au lieu de faire une grande manifestation contre le racisme et l'antisémitisme, parce que c'est les mêmes formes de rejet qu'il faut combattre, on a, pour avoir le Rassemblement national, parce que c'était ça, pour avoir la participation du Rassemblement national, fait une manifestation seulement contre l'antisémitisme, en créant des divisions sur pourquoi seulement l'antisémitisme, pourquoi en France, où l'islamophobie est bien plus développée, il n'y a pas de marche contre l'islamophobie, etc. etc. Donc, je crois qu'on joue avec cette affaire d'antisémitisme, et je suis d'accord, ça alimente des formes d'antisémitisme qu'il faut combattre. Mais je veux dire, la responsabilité,
sinon, on se prépare des lendemains très difficiles.
Ah oui, mais je suis d'accord. Oui.
Non, alors effectivement, j'ai été extrêmement impressionnée dans votre livre, hein, parce que c'est très bien, on le sent, hein, monter dans la société, mais c'est très bien résumé. Le retour du Rassemblement national et de l'extrême droite dans l'arc républicain à la faveur de ces événements en Israël est absolument terrible, parce que maintenant, effectivement, le soutien inconditionnel à Israël vaut blanc-seing. Voilà. Pour tout le passé.
Un journaliste israélien a eu la formule, parce qu'il parlait des relations du parti de Netanyahou avec toute l'extrême droite est-européenne, et il disait « rendre les antisémites cachers ».
C'est ça. Et vous dites, vous écrivez, Israël adoube tous les mouvements, même antisémites, à condition qu'ils le soutiennent inconditionnellement. Là encore, jeu extrêmement dangereux.
Absolument dangereux, c'est-à-dire c'est... Et on, si vous voulez... En séparant aussi les victimes du racisme, c'est un mauvais service rendu aux Juifs, c'est un mauvais service rendu aux Arabes et aux musulmans, c'est un mauvais, c'est vraiment dangereux pour tout le monde, pour toute la société. Mais malheureusement, on est dans une société, si vous voulez. Moi, je suis frappé quand même, enfin, et c'est pas seulement vrai en France, aux États-Unis. La seule question que les journalistes ont l'air de se poser, quand on parle des mouvements étudiants, c'est est-ce qu'ils sont antisémites. Et réellement, ils ne sont pas. Et en plus, en France aussi, mais aux États-Unis encore plus, la place des jeunes juifs dans ces mouvements est extrêmement forte.
Oui, ça,
et alors, on va dire, ce sont des gens qui ont la haine de soi. Enfin, bon,
y a... Alors ça, c'est une question, j'imagine, que vous avez vous-même affrontée, Alain Gray, puisque vous êtes d'origine juive et égyptienne.
Oui, enfin, ma mère est juive, mon père, enfin, c'est compliqué. Mais
votre
bon.
Mère, enfin, c'est ce que vous dites.
Non, non, ma mère est juive, ce qui veut dire que... Du point de vue de la loi juive, je suis juif. Et comme j'ai dit en réglant, si je vais en Israël, je peux demander la nationalité israélienne.
Exactement.
Mais ce qui est une forme de... Moi, je dis, c'est qu'ils me prennent en otage. Parce qu'ils parlent, ils prétendent, l'État d'Israël, parler au nom de tous les juifs du monde. Et donc, d'une certaine manière, ils m'identifient à leur politique dans laquelle je ne m'identifie pas du tout.
Alors, notre gouvernement... ne sait pas, enfin n'a pas désavoué la Cour pénale internationale à ce stade, même si on sent que la position est fragile.
Hein. Oui.
Mais bon, tout de même, notre ministre des Affaires étrangères, aussi incroyable que cela soit, c'est bien lui, Stéphane Séjourné, a dit en janvier 2024, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce mot, accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. Donc, je résume son syllogisme. L'État juif ayant été fondé suite à un génocide, suite à la destruction des Juifs d'Europe, comme on sait, il ne peut pas être génocidaire. Bon, on voit bien que tout ça est en train de s'effondrer dans les opinions publiques mondiales aujourd'hui. Est-ce que cette perte de crédit moral à vitesse accélérée qui est en train de se produire pour Israël n'est pas finalement la pire chose qui pouvait lui arriver? Je lisais pas plus tard que ce matin un article de Haaretz, une tribune de Haaretz plus exactement, qui disait la chose suivante, au point où en sont les choses, on ne sait même pas si Israël pourra fêter ses 100 ans.
Oui, ça, je ne suis pas capable de faire des prévisions à si longue échéance. Mais une des conséquences de ça, et je pense que c'est problématique, c'est de banaliser le génocide des Juifs. C'est-à-dire que en faisant une espèce d'arme permanente brandie contre toute personne qui critique Israël, d'une certaine manière, il y a des gens, enfin, notamment dans la jeunesse, qui disent « Mais attendez, le génocide des Juifs, c'est fini, etc. Pourquoi on en parle ?» et qui, petit à petit, peuvent le banaliser. Je pense que le génocide des Juifs est une affaire centrale de l'Europe. Pas l'Union européenne, évidemment, c'est les Européens qui ont commis ce génocide, ça s'est fait sur leur propre territoire, et je pense que c'est bien que ça reste un des éléments clés de la mémoire en Europe. Mais là, la manière dont Israël le banalise et l'utilise, moi, d'une certaine manière, je ne considère pas Israël comme l'héritier du génocide. Je veux dire, c'est le fait qu'il a été... Enfin, comment dire, les Juifs sont partis en Palestine avant le début du génocide, et puis, bon... Je ne considère pas Israël l'héritier de ça. Mais en même temps, je pense que l'Europe est l'héritière du génocide. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose à faire, mais que cette utilisation permanente à des fins politiciennes, elle est catastrophique. Et puis, ce que dit Séjourné quand il dit de faute morale, il faudrait lui demander, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui ont subi un génocide ou qui ont subi des crimes de guerre, etc., ne peuvent pas eux-mêmes en commun. Toute l'histoire prouve le contraire. C'est pas parce qu'on a été victime de...
Au niveau collectif et individuel,
bien sûr,
c'est
bien
que
sûr,
c'est faux.
Bien sûr. Ben, on a l'exemple du Rwanda qui a été victime d'un vrai génocide et en même temps qui mène une guerre dans l'est du Congo qui a des aspects vraiment terribles. Donc, je veux dire, c'est... On aimerait que les gens qui aient été victimes d'un génocide... Il y a Tom Segev, qui est un historien israélien, il disait une chose très juste qui m'avait beaucoup frappé. Il y a 20 ans, j'avais lu. Il dit, du génocide des Juifs, on peut tirer deux leçons. Une, c'est que ce qu'on a subi est tellement terrible que quoi qu'on fasse aux autres, c'est moins important. Enfin, et ceux qui disent, ce qu'on a subi est terrible, et on veut que ça recommence pour personne. Et c'est deux leçons tout à fait différentes. Et malheureusement, aujourd'hui... le gouvernement israélien, les autorités israéliennes sont sur la première interprétation, c'est-à-dire tout nous est permis parce que les Juifs ont subi un génocide.
Alors effectivement, vous rappelez d'ailleurs au passage le pédigré de certains ministres du gouvernement Netanyahou. qui ne sont pas forcément très médiatisés ici en France. Je pense à Ben Gvir, bien sûr, qui est devenu le chef de la sécurité nationale israélienne. Et vous vous rappelez qu'il a été l'objet d'un suivi du département, le Shin Bet l'a mis sous surveillance comme potentiel terroriste juif, et qu'il a même été dispensé de services militaires pour des raisons de sécurité nationale. Et aujourd'hui, c'est lui qui est responsable de la sécurité nationale. Comment, essayez-nous, vous qui suivez ces affaires depuis 30 ans et plus, comment est-ce qu'une telle glissade sécuritaire et même extrémiste et même raciste israélienne a-t-elle été possible ?
La dérive, elle est pas nouvelle, mais elle s'est renforcée. C'est, chaque fois, on dit c'est le gouvernement le plus à droite qu'Israël a connu. Tous les 5 ans, on a ça. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, Israël a un problème d'identité. C'est quoi être juif ? Personne ne sait. Personne ne sait le définir. Les nazis aussi sont essayés, ils n'ont pas réussi. Le gouvernement israélien, quand il a adopté la loi du retour qui permet à tout juif de retourner en Israël, qu'est-ce que c'est un juif ? Donc, il y a une grande confusion sur l'identité. Et aujourd'hui, il y a le problème de qu'est-ce qui nous lie entre nous ? Et ceux qui apportent à ça une réponse nationaliste ethnique et nationaliste religieuse, on le vend en poupe, parce qu'ils ont l'impression... Ils donnent un sens à l'État d'Israël. Ils disent, nous sommes... si vous croyez que c'est une terre qui a été promise par Dieu il y a 5000 ans, je veux dire, c'est quand même... Et si vous y croyez vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup de ces gens qui y croient vraiment, bon, je veux dire, ça donne une raison de vivre. Et on assiste à des mouvements qui sont un peu pareils, malheureusement, dans le monde entier, c'est-à-dire le retour à un ethno-nationalisme, on le voit en Inde, etc., qui est la raison d'exister de tous ces gens-là. Et ça, c'est en rupture, disons, avec d'autres traditions qu'il y avait en Israël avant. Mais il faut dire autre chose, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que, comment dire, des gens comme ça qui seraient, enfin, il y a 20 ans, quand il y avait un chef de l'extrême droite élu en Autriche, etc., l'Europe disait pas de relation avec lui. Aujourd'hui, ça s'est banalisé, on le voit aux Pays-Bas, avec Geert Wilders qui est dans la coalition, etc. Mais en Israël, c'est pareil. C'est-à-dire, on a accepté le fait qu'il y ait des gens qui sont des fascistes, suprémacistes, juifs, qui sont au gouvernement. Et c'est pas, ils jouent pas un rôle secondaire. C'est-à-dire, Smotrich et Ben-Gvir, parce qu'on parle beaucoup de Gaza en ce moment, et assez peu de la Cisjordanie, mais ils ont la haute main sur la Cisjordanie. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu autant de morts, jamais eu autant de communautés palestiniennes expulsées. Ils sont en train de prendre en main la Cisjordanie, au même moment où le gouvernement français dit on veut des États, et en même temps, ils laissent faire et ils ne protestent pas, sinon de manière totalement formelle.
Est-ce que vous considérez, comme certains des intervenants qu'on a pu recevoir ici depuis cet hiver, que les États-Unis pourraient mettre un terme à cette situation en 48 heures ?
Ah oui, oui. Enfin, si on est théoriquement, les États-Unis arrêtent leur livraison d'armes en 24 heures. La guerre s'arrête. Il y a une forme de fanfaronnade israélienne disant nous sommes prêts, nous pouvons nous battre tout seuls, etc. C'est faux. Je dirais même, c'est pas seulement les armes, si l'Union européenne décidait de suspendre l'accord d'association qui lie l'Union européenne et Israël, la guerre s'arrêterait. C'est pas possible parce qu'il n'y aura pas un consensus dans l'Union européenne. Mais Israël est tellement dépendant des relations commerciales, économiques, universitaires avec nous, qu'il ne peut pas résister. Donc c'est un État fragile, c'est pas un État... Il y a une différence entre le caractère matamore de Netanyahou et des différents dirigeants et la réalité, c'est un État dépendant. Le problème, c'est que pour d'autres raisons, ni les États-Unis ni l'Union européenne ne sont prêts à prendre des mesures contre Israël. Et on le voit, c'est quand même extraordinaire. Là, l'offensive sur Rafah a commencé. Il y a, je sais pas, entre 600 et 800 000 personnes qui sont parties. C'est un crime de guerre, je dis. Et Macron avait dit « c'est une ligne rouge pour nous, on attend de voir la réaction ». Les États-Unis ont dit « nous n'accepterons jamais » et ils se sont pliés. Donc voilà, il y a une espèce de forme d'impunité. Et c'est pour ça que la décision de la Cour pénale internationale est importante, même si elle a des limites.
Elle est contestée par les États-Unis, bien sûr.
Oui, oui, mais elle montre pour la première fois que ce n'est pas un pays au-dessus des lois. Et ça, je pense que ça peut avoir des suites, et ça peut avoir des suites aussi politiques, diplomatiques, avec la reconnaissance d'un certain nombre de pays européens. Etc. Ça ne suffira pas à mettre fin à la guerre, mais je pense que c'est important, et c'est aussi le signe de la dégradation de l'image d'Israël. C'est-à-dire, l'image d'Israël, moi j'ai grandi à la politique, je veux dire, en 67, au moment de la guerre israélo-arabe, je veux dire, le mythe d'Israël, pays socialiste, les kibbutz, l'héritier du génocide, etc., etc., était très fort. Aujourd'hui, c'est un truc qui est en train, à mon avis, de s'achever. Et ça, c'est effectivement, pour Israël, un vrai défi.
Pourquoi ce soutien indéfectible des États-Unis ?
Il y a tout un débat, vous savez, entre Noam Chomsky qui dit et ceux qui parlent du lobby pas juif aux États-Unis. En général, ça pose pas de problème pour personne, ni pour les juifs, ni les non-juifs, de dire lobby juif aux États-Unis. Mais bon, en France, ça a une connotation évidemment problématique. Mais Chomsky, enfin, les gens qui ont défendu l'idée du lobby, c'est de dire le lobby est tellement puissant qu'il fait faire ce qu'il veut aux États-Unis. C'est-à-dire, il faut voir l'argent qu'ils mettent dans les primaires pour obtenir que ce soit des candidats pro-israéliens. Il y a des formes incroyables, je veux dire. Jazir a fait un documentaire en 4 parties avec un infiltré sur le. C'est vraiment incroyable. Et puis, il y a ceux qui disent, Chomsky dit pas du tout, c'est la convergence des intérêts stratégiques d'Israël et des États-Unis. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est-à-dire, c'est pas forcément contradictoire, mais globalement, Israël, depuis 1950, c'est-à-dire, en gros, à part la courte période où il y a eu une alliance soviéto-israélienne, quand l'Union soviétique a soutenu le plan partage et surtout a armé la jeune armée de l'État d'Israël, une convergence sur tous les dossiers internationaux. Et Israël a joué le rôle de. Enfin, je veux dire. Comment dire. Pas d'agent, mais de force pour promouvoir la politique américaine. C'était vrai en Amérique latine, le soutien aux dictatures, c'est vrai en Afrique du Sud, je veux dire.
Donc plutôt pour vous une alliance impérialiste, oui, une alliance objective.
Et aussi si on prend, bon, parce que il y a aussi l'aspect proche-oriental, au sens où il y a le pétrole, même si c'est un peu moins important maintenant, parce que les Américains sont devenus autosuffisants en pétrole, mais ça reste quand même important, etc. Donc il y a aussi ces éléments, et ils savent qu'au Proche-Orient, le seul allié stable, c'est Israël. Demain, il peut y avoir des changements en Arabie saoudite, comme il y a eu en Iran. L'Égypte peut tomber, l'État égyptien. Donc, la seule alliance vraiment stable, c'est ça. Et je pense que ça joue un rôle. Et puis, il y a autre chose qui est importante, c'est-à-dire, moi, ça m'a toujours frappé, c'est-à-dire, Israël et l'Occident, c'est des Occidentaux qui parlent à des Occidentaux. Et qui savent comment on parle, et qui ont en plus des centaines de milliers de gens qui ont la double nationalité, qui sont présents dans les médias. C'est pas, c'est-à-dire, il y a des liens personnels, culturels, etc., etc. Il y a une coopération militaire, il y a une coopération stratégique, scientifique, etc. Ça crée effectivement le fait que, en gros, on va s'émouvoir quand un Israélien va être tué, et on va avoir beaucoup de mal à s'émouvoir quand 500 et un Palestinien sont tués.
Alors, les gens ne le savent pas forcément, car nos médias ne nous le disent pas, mais la France est fortement impliquée aussi, hein, parce que vous rappelez que le Time of Israel, ce titre a publié il y a quelques mois, le fait que la France, après les États-Unis, était la première source d'importation d'armes pour Israël. Nous fournissons énormément d'armements aux Israéliens actuellement.
Pourquoi est-ce que maintenant c'est passé aux Allemands? C'est les Allemands qui jouent un rôle, à mon avis, beaucoup plus important. Ce rapport date d'il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans.
Mais pourquoi on le dit si peu chez nous?
On a développé avec Israël depuis Sarkozy, depuis la présidence Sarkozy, mais ça a été repris par François Hollande et ensuite par le président Macron, une alliance stratégique avec Israël sur tous les plans. Économique, on a favorisé le fait que Israël a un statut à nul autre pareil à l'Union européenne. Il n'y a pas un pays du monde qui a autant de privilèges en termes économiques, coopération scientifique, coopération universitaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de contestations face aux gens qui disent il faut le boycott universitaire, mais il faut savoir que le système universitaire israélien est au service de l'appareil militaire. je veux dire, les départements de philosophie, c'est-à-dire dans les nouvelles technologies, c'est totalement lié à l'appareil militaire. Ils développent des universités scientifiques de haut niveau qui travaillent pour l'appareil militaire. Bon, ça c'est... Donc on a développé tout à fait ces relations avec Israël. Alors, une des questions que je me pose depuis longtemps, c'est-à-dire... On finit par oublier que la France a eu une position originale au Proche-Orient avec De Gaulle et après De Gaulle avec tous les présidents jusqu'à Chirac.
Même avec Chirac.
Oui, oui. C'était l'idée. Bon, personne n'était anti-israélien. Je veux dire, il n'y a aucun dirigeant politique qui demandait la fin d'Israël. Ils étaient tous. De Gaulle avait beaucoup de respect pour Israël. Mais il disait la solution, elle passe par la garantie sécurité d'Israël. Mais la reconnaissance des droits à l'autodétermination des Palestiniens et la négociation avec l'Organisation de libération de la Palestine, qu'à l'époque les Américains et Israël qualifiaient de terroristes. Donc, et la France a joué un rôle pour pousser à ça. C'est ça qui, en partie, a amené une évolution européenne vers l'acceptation de cette position, à la possibilité de négociation. Et je dirais quelque part qui a poussé l'OLP à renoncer au terrorisme. Parce que, souvent le terrorisme, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre. Enfin, le terrorisme au sens, moi j'aime pas le terme, mais au sens d'utilisation de la violence contre des, y compris contre des civils, c'est fait. C'est là, on dit c'est l'arme des faibles, c'est parce qu'il n'y a pas autre chose. Quand les Palestiniens faisaient des détournements d'avions dans les années 70, etc., c'était pour maintenir la question palestinienne vivante. Pourquoi ils ont évolué? Parce qu'on leur a offert des perspectives politiques. Parce qu'il y a eu la reconnaissance par les Européens. Ensuite, il y a eu des négociations. Ça a débouché sur Oslo avec toutes les limites et ça. Mais il y avait une perspective qu'au bout de ces négociations, allait se créer un État palestinien. Il ne s'est pas créé. Et je veux dire, aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles le Hamas a progressé. C'est que le Hamas disait qu'il n'y a pas de possibilité de solution. Et je veux dire, l'attitude israélienne et occidentale a confirmé ça. Il n'y avait pas de possibilité de solution politique. Et donc, la violence est devenue une voie normale.
Effectivement, vous rappelez dans le livre le nombre de guerres dont on ne parle pas depuis le début des années 2000 qui ont eu lieu.
Oui, à Gaza.
Il y en a 6 ou 7.
Les Israéliens appellent ça tondre le gazon, ce qui est quand même très insultant. C'est-à-dire, ils disaient. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une double politique israélienne. Un, c'est tondre le gazon, c'est-à-dire. On bombarde, par exemple, pour réduire les capacités du Hamas, on tue les dirigeants. Et évidemment, les dirigeants, chaque fois, ils sont remplacés par d'autres dirigeants. Je veux dire, mais il y avait ça. Et en même temps, je veux dire, c'est quand même important. Et ça a suscité beaucoup de débats en Israël. Netanyahou avait une politique d'aider le Hamas, c'est-à-dire de financer le Hamas, parce qu'il disait, il le dit dans un article que je cite de Haaretz, enfin, Haaretz le cite en disant, si nous ne voulons pas d'État palestinien, il faut maintenir le double pouvoir. Le pouvoir du Hamas à Gaza et le pouvoir pouvoir très relatif de Mahmoud Abbas en Cisjordanie. Et ça a marché. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier, dans quelques années, on refera le bilan de ce qu'a été le 7 octobre. Moi, je ne pense pas que c'est le plus grand massacre antisémite de l'histoire ou depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas que ceux qui étaient visés, c'était les Juifs, où les Allemands visaient les Juifs. C'était une opération militaire qui visait les Israéliens. Et elle a eu des résultats militaires. Ils ont tué 400 à 500 soldats. Il y a eu aussi, ils ont remis la question palestinienne au centre de la... Et aujourd'hui, j'ai écouté un communiqué du Hamas après la reconnaissance par l'Espagne, l'Irlande et
La Norvège.
Et la Norvège. Ils disaient, c'est nous qui l'avons obtenu. Et c'est en partie vrai. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on a enterré la question palestinienne et les gouvernants. Je cite aussi, c'est Fabien Roussel qui, dans une interview donnée au journal en ligne, à notre journal en ligne, raconte la réunion des partis politiques, comme vous savez, ces réunions que Macron aime bien faire, je sais pas pourquoi, mais enfin bon, qui se tient en septembre 2023, en septembre 2023, il dit je crois que c'est Roussel qui lui pose la question et Macron dit c'est une question secondaire. Au même moment, c'est intéressant, le principal conseiller national de la sécurité de Biden fait un article dans Foreign Affairs en disant « Jamais le Proche-Orient n'a été aussi calme depuis 20 ans ». Donc voilà, il y a une inconscience totale. Ils ont pensé que. Mais.
Ouais.
Et moi, j'ai vu.
Et le dossier était enterré.
Ouais. Oui, oui. Et beaucoup de diplomates étaient dans cette idée. Bon, même quand ils sympathisaient avec les Palestiniens, mais en gros, c'est une cause perdue. Sans prendre en compte, c'est pas seulement un petit conflit au sens. Effectivement, si vous parlez du Soudan, il y a plus de morts au Soudan qu'il y en a en Palestine. Mais c'est un conflit emblématique, d'abord pour le monde arabe et musulman. C'est vraiment le dernier conflit colonial non résolu et qui mobilise à travers. Qui mobilise le monde arabe et musulman, mais on l'a vu aujourd'hui, c'est devenu la question qui permet de mobiliser la jeunesse à travers le monde, comme l'avait été le Vietnam, comme l'a été l'Afrique du Sud, et à mon avis, c'est la troisième grande cause internationale qui mobilise très largement. Et ça ne va pas disparaître, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain à Gaza, mais ça ne disparaîtra pas. Et peut-être qu'il y aura... Peut-être qu'Israël gagnera, qu'il n'y aura plus personne qui vont arriver à bider Gaza, etc. Mais... Sur le territoire de la Palestine, il y a encore des millions et des millions de Palestiniens et qui ne sont pas prêts à capituler.
Vous écrivez que, ça m'a beaucoup frappé bien sûr, que de la guerre à Gaza dépend non seulement l'avenir des Palestiniens et aussi des Israéliens, mais plus largement celui du monde. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce dernier point. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là et quels pourraient être les scénarios d'un embrasement régional, voire mondial, autour de cette affaire ?
C'était pas l'idée. Enfin, mon idée, c'est pas tellement l'idée d'un embrasement régional ou international. Enfin, régional, il est possible. On l'a vu avec Iran, Israël, etc. Mais c'était plus l'idée que il y a un mouvement depuis le 11 septembre 2001 et le lancement de la guerre contre le terrorisme de destruction du droit international tel qu'on l'a connu, qui était imparfait après la Seconde Guerre mondiale, c'était la guerre froide, il y avait l'équilibre des puissances, etc. Mais il y avait quand même une acceptation par tout le monde du droit international. Je cite Agnès Callamard, la secrétaire générale d'Amnesty International, qui fait un papier, je crois, dans Foreign Affairs, où elle dit, à partir du 11 septembre 2001, dans la lutte contre le terrorisme, et c'est pour ça que je n'aime pas le terme terrorisme, parce que le terrorisme, ça veut dire on lutte contre le mal. Quand vous êtes dans une lutte entre le bien et le mal, vous êtes, comment dire, dans une lutte titanesque entre l'Occident et le reste du monde, face à un complot mondial, etc., etc. Et dans ce cadre-là, tous les moyens sont bons pour gagner. Les Américains ont envahi l'Irak en 2003 sans tenir compte du droit international. Ils ont réinstaurer la torture à une grande échelle à Abu Ghraib et en Irak et ensuite en Afghanistan. Donc petit à petit, ce droit international se dissout. Et si on laisse faire ce qui se passe à Gaza, c'est le signe que c'est terminé. On l'a vu au moment de l'Ukraine. C'est au moment de l'Ukraine, là, il y a peu de pays qui ont soutenu la Russie et l'invasion russe, mais il y a peu de pays qui ont accepté de rejoindre la campagne occidentale, parce que l'argumentation des pays, je pense du pays arabe, d'un pays comme l'Arabie saoudite, qui n'est pas un pays révolutionnaire, c'était de dire, vous faites ça pour vos intérêts, vous défendez vos intérêts, nous on a des relations avec la Russie, on défend nos intérêts. C'est-à-dire le droit n'entre plus du tout en ligne de compte. Et c'est ça qui est dangereux, et c'est pour ça aussi que je dis quand même, pour laisser une note d'optimisme, que la décision de la Cour internationale de justice et aujourd'hui de la Cour pénale internationale ouvre une autre voie. Elle est fragile, elle est petite, elle est difficile, c'est-à-dire l'idée qu'il faut redonner des règles au système international. Sinon, on va aller demain. Qu'est-ce qui va? Au nom de quoi on va, sinon, au nom des intérêts géopolitiques, dire si la Chine attaque Taïwan, c'est pas bien? Non, je veux dire, on va avoir le Nigeria, je dis ça comme ça, qui attaque un voisin au nom de ses intérêts géopolitiques, et on dira, bah oui, c'est bien, il n'y a pas de droit international, et voilà. C'est pour ça que je dis que ce qui se joue à Gaza, c'est beaucoup plus important simplement que Gaza.
Est-ce que c'est imaginable de voir Netanyahou en prison ?
Non, non, je crois pas. Mais moi, je ne fais pas.
Un jour.
Oui, un jour peut-être. Mais moi, je.
On est dans le symbole alors.
Non, non. Alors, d'abord,
c'est important.
Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que L'opposition à Netanyahou n'est pas beaucoup mieux que lui. C'est-à-dire Gantz, qui est soi-disant son rival, il a dit qu'il fallait occuper Gaza, il a dit qu'il fallait aller plus avant. Et je dis malheureusement, il y avait un consensus avant le 7 octobre anti-palestinien, il s'est renforcé. Il faut quand même savoir que 70 à 80% des Israéliens sont d'accord pour qu'on affame la population de Gaza.
Ça, c'est très important de le dire, parce que c'est ce qu'il y a de très troublant dans cette situation. Oui. C'est qu'il y a un soutien massif, malheureusement, de l'opinion.
Oui, donc l'abandon total de n'importe quelle règle humanitaire. C'est pour ça que j'ai des... Bon, pour moi, je ne fais pas une fixation sur Netanyahou. Je pense qu'il, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, mais peut-être je me trompe, je ne suis pas un spécialiste de la politique intérieure israélienne, à mon avis, il n'est pas menacé. Il a une majorité stable avec 64 députés. Il a le soutien de l'extrême droite. L'extrême droite ne va pas le faire tomber parce qu'elle a des possibilités d'action comme elle n'en a jamais eu dans l'histoire d'Israël. Donc, bon. Donc, on est dans cette situation. Effectivement, je dis, un des problèmes aujourd'hui, c'est effectivement ce front intérieur israélien qui est très solide. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a que des sanctions qui peuvent l'amener à évoluer. C'est-à-dire
des sanctions
prises contre Israël. C'est-à-dire
de quel ordre alors ?
Par exemple, une chose que m'avait conseillé un ami, un juif américain d'ailleurs très impliqué dans les négociations, un juif israélo-américain très, qui avait été très impliqué dans les accords d'Oslo, etc., qui me disait mais une chose simple : la communauté internationale considère les colonies comme illégales. C'est même un crime de guerre selon la Cour pénale internationale. Il y a 700 à 800 000 colons. Ils habitent à côté des Palestiniens. Les Palestiniens, pour venir en France ou en Europe, ils ont besoin d'un visa. Imposons un visa aux 700 000 colons qui vivent dans les colonies. Je trouve que l'idée est géniale. Parce qu'en plus, ça fait... Ça,
mais est-ce que ce sera dissuasif ?
Ah oui, oui, je pense que ça sera dissuasif. Pourquoi ? Parce que, quelque part, Israël a les avantages de l'occupation sans en payer le prix. À part, bon, laissons le 7 octobre, ça a été... un coup de tonnerre, on peut y revenir, mais globalement, ça aurait pu continuer des décennies. S'il n'y avait pas eu le 7 octobre, ça aurait pu continuer des décennies. Pourquoi ? Parce que la plupart des Israéliens ne voient pas l'occupation. Ils ne fréquentent jamais les Arabes, sinon éventuellement les gens qui servent dans les restos, enfin qui font la plonge dans les restos, qui font les petits boulots. Donc il n'y a pas de...
Bon, il y a quand même les réseaux sociaux, ils savent ce qui se passe.
Non, écoutez, alors tout le monde est d'accord là-dessus, les Israéliens refusent de voir ce qui se passe à Gaza. Vraiment, et ça c'est unanime. Alors c'est un mélange
mais
de...
comment vous expliquez ça quand même, c'est très troublant.
Ben, alors là, il y a le choc du 7 octobre, c'est évident, il y a un choc qui est un choc à la fois parce qu'il y a eu des crimes qui ont été commis, et bon, beaucoup de gens qui ont été, des civils tués, pas autant que ce qu'on avait dit, pas dans les conditions que les médias ont dit, mais il y a eu ça. Et puis, comment dire, c'est la première fois que sur les territoires israéliens, depuis la création de l'État d'Israël, que Israël subit une défaite militaire. C'est-à-dire, j'ai dit, l'opération de Hamas a été une opération militaire qui a permis de prendre le contrôle d'une demi-douzaine de bases, de casser. Il y a une division spéciale qui s'appelle la division Gaza qui est censée contenir le territoire. Elle a été démantelée. Alors, en partie, parce que...
Et déjouer les systèmes de surveillance.
Et d'une certaine manière, ça met en lumière la fragilité d'Israël. Et aussi une autre... Mais pour l'instant, ça suscite une réaction... plutôt de durcissement, en disant on ne leur a pas assez tapé dessus. Et le problème...
Aujourd'hui encore, ça ne bouge pas ?
Non, c'est trop tôt, à mon avis, pour que ça bouge de manière profonde. Alors, ça bouge autour des otages, mais c'est... Non, je ne pense pas que ça bouge assez. Il commence à y avoir quelques voix, mais s'il y a en France une répression des voix qui soutiennent la Palestine, je veux dire, ça prend des proportions beaucoup plus importantes parmi les toutes petites tout petit groupe qui se mobilise pour la Palestine en Israël même.
Alors, vous évoquez la censure des contenus sur la Palestine orchestrée. On n'en parle pas, sans ça, on n'en parle quasiment pas dans les médias français. Orchestrée par Meta, donc Meta, c'est Facebook et Instagram, évidemment. Et ça, vous citez Human Rights Watch, un article de un rapport de décembre 2023. Ça se passe comment ?
C'est simple, c'est-à-dire on censure certains mots
Des mots-clés?
Des mots-clés, génocide, Gaza, etc., etc.
On invisibilise ces
On les invisibilise, pas, on ne censure pas au sens... Oui. Voilà. Donc, au lieu d'apparaître sur la page des gens qui vous lisent, ils vont apparaître en 50e position.
C'est
et, ça. Et Meta a négocié avec le gouvernement israélien les mots qu'on peut interdire.
Il y a ça, c'est établi.
Oui, oui. Et je veux dire, je crois que le rapport le cite. Et il y a une volonté d'empêcher, d'empêcher le débat, parce que c'est aussi une chose qui est intéressante sur TikTok. Une des raisons pour lesquelles on veut interdire TikTok, au-delà des aspects chinois, etc., c'est que c'est le réseau qui a été le plus pro-palestinien. C'est celui où les Palestiniens ont gagné massivement, enfin les Palestiniens et leur soutien, massivement la bataille de l'information. Le gouvernement israélien l'a reconnu, etc. Et un sénateur disait récemment que ça avait pesé dans la décision du Sénat de demander l'interdiction de TikTok. Alors, ce n'est pas la région principale.
Mais pour le moment, il n'y a que la France qui l'ait fait en Nouvelle-Calédonie.
Oui, oui, ça c'est bon.
On est
à l'avant-garde, si
à
on peut
l'avant-garde
dire. Non, mais je pense que,
enfin,
j'espère que ça ne passera pas devant les tribunaux quand même. Enfin, que ça ne sera pas avalisé par les tribunaux.
Ça avait été évoqué aussi au moment des émeutes de l'été 2023.
Bien sûr, bien sûr,
je pense que...
Mais c'est absurde, je veux dire, on sait très bien
je pense que ça peut être mis en place.
Oui, non. C'est très difficile de contenir les médias, à moins d'avoir un système comme en Chine, je veux dire, qui est un système clos. Mais dans un système mondialisé, je ne dis pas que c'est impossible, mais le contrôle est, me semble, pas évident à mettre en place.
Bon, vous restez optimiste, vous êtes un progressiste. Alors, petite question quand même, on n'a pas entendu beaucoup les pays arabes. Le Hamas, vous le dites, hein, ça faisait partie des objectifs du Hamas. Ils en ont... ils ont réussi sur certains points, ils ont réussi à refaire parler mondialement du conflit israélo-palestinien et d'autres choses. Mais ils pensaient mobiliser les pays arabes en leur faveur, ils pensaient qu'il y aurait un soutien beaucoup plus actif du Hezbollah jusqu'à l'Iran, et ça n'a pas vraiment été le cas. Alors pourquoi est-ce que c'est une vraie question, pourquoi est-ce que les pays arabes se montrent aussi pusillanimes, plus qu'ils n'ont pu l'être par le passé?
Alors il y a deux choses, il y a la position de l'Iran, qui est évidemment très importante, parce que le Hezbollah, d'une certaine manière, est lié à leur stratégie. Et c'est clair que, pour des raisons de politique intérieure, parce qu'ils ont décidé de renouer avec l'Arabie saoudite, parce qu'il y a un dialogue avec les États-Unis sur le nucléaire, parce que leur situation interne, avec leur répression, et tout, ils ne veulent pas de conflit. Donc, en fait, le Hezbollah est sur une ligne, comment dire, fragile entre... Ils ne peuvent pas laisser faire, pour des raisons, y compris d'adhésion à la cause palestinienne, ils ne peuvent pas laisser faire sans rien faire, et en même temps, ils ne veulent pas aller trop loin. Mais ça peut déraper, hein, je veux dire, on l'a vu avec ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. Donc ça, c'est la stratégie de l'Iran. Il y a la stratégie particulière qui est des houthistes. Personne ne connaissait les houthistes. Eux, alors, ils sont pas liés à l'Iran. Enfin, ils sont liés à l'Iran, mais ce n'est pas des agents de l'Iran. Eux, ils ont... si vous regardez les images de manifestations en faveur de la Palestine, c'est les plus massives que j'ai jamais vues, vraiment à Sanaa. Et vraiment, bien que le régime ne soit pas aimé, le régime houthiste, notamment à Sanaa, les gens sont avec la Palestine. Et puis, donc, ils disent « nous voulons arrêter le génocide ». C'est la convention, enfin, ils ne le disent pas, moi je dis c'est la convention pour éviter le génocide, la convention de 48, qui fait obligation à n'importe quelle partie d'intervenir en cas de génocide. Bon, ça c'est leur stratégie, mais ça ne suffit pas. Alors, les pays arabes, c'est différent, les pays arabes étaient dans un processus de normalisation avec Israël. Il y a eu les accords entre le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, ensuite le Maroc et Israël. Et il y a des négociations qui n'ont pas totalement cessé, mais entre l'Arabie saoudite et les Américains et Israël. Donc, ils sont pas... Enfin, bien que les opinions publiques soient massivement pro-palestiniennes, et que quand même les gouvernements sont obligés de prendre compte, par exemple, les Saoudiens, pour l'instant, ils ont dit très clairement qu'ils n'iraient pas à un accord avec Israël. Même l'Égypte a commencé ces derniers jours à durcir le ton. Mais cette opinion du monde arabe, elle ne peut pas s'exprimer dans la rue. Et voilà, il y a eu des arrestations nombreuses en Arabie saoudite, en Égypte, des gens qui ont essayé de manifester. Mais c'est aussi, il faut le dire, le résultat de l'échec des printemps arabes et du fait qu'on a des régimes, je dirais, le régime égyptien, je dirais à côté, Moubarak, c'était un grand démocrate. Hein, je veux dire, on a un régime de répressif incroyable, je veux dire. Et le Mohamed Ben Salman, le prince héritier en Arabie saoudite, c'est un niveau de répression contre les formes politiques d'opposition qui n'a jamais été atteint dans les années 80 et 90. Donc, on a une situation qui est effectivement très, très différente.
Par ailleurs, il est main dans la main avec l'establishment américain.
Oui, oui, non, bien sûr. Mais après, un des changements qu'il y a dans le monde, c'est qu'on a des alliances qui ne sont plus stratégiques. C'est-à-dire, un des alliés forts de l'Arabie saoudite aujourd'hui, c'est la Russie. Sur la politique pétrolière, Poutine et MBS s'entendent, ils ont sur cette question une convergence. Mais ça ne les empêche pas sur d'autres d'avoir des divergences. C'est-à-dire, on n'est plus à l'époque des alliances stratégiques au sens
des politiques de puissance.
Voilà. Et en plus, comme le monde est plus divers, c'est-à-dire les Saoudiens jouent là-dessus, ils jouent leur relation avec l'Arabie saoudite, la Russie et avec la Chine, pour faire pression sur les Américains. Mais en même temps, ils défendent leurs propres intérêts. Avant, ils étaient plus ou moins alignés sur les intérêts occidentaux.
Comment est-ce que vous voyez l'après-guerre ?
Je dirais d'abord, l'urgence, c'est l'arrêt de la guerre. Enfin, c'est vraiment une population qui vit... c'est quand même 2,5 millions de personnes qui se déplacent d'un endroit à l'autre dans des conditions épouvantables. Enfin, on ne le voit pas assez à la télévision. Il y a des images, mais elles sont prises, comme disait quelqu'un à la Cour internationale de justice. C'est le premier génocide qui est filmé en direct par ses victimes. On a les images, mais les télévisions occidentales les ont peu montrées. Et puis aujourd'hui, elles tendent à les dépolitiser. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la question de Gaza... c'est une question humanitaire. Je dirais même la décision de la Cour pénale internationale pose problème. Le problème n'est pas pour moi de savoir qui a commis des crimes de guerre. Oui, que le Hamas a commis des crimes de guerre, c'est bon. Je ne connais pas de guerre où il n'y a pas eu violation du droit international de la guerre. Mais avant ça, il y a la violation du droit politique international, qui est le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Et il faut revenir à la politique, c'est-à-dire que la question palestinienne, ce n'est pas une question humanitaire, c'est une question politique. Maintenant, comment on passe de la... Donc, l'urgence absolue, c'est l'arrêt des combats. Et pour ça, il faut des pressions sur Israël. Je pense que le fait que des gouvernements européens reconnaissent la Palestine, c'est un pas en avant. La Cour pénale internationale, c'est un pas en avant, mais ce n'est pas suffisant, on le voit. D'autant que je pense que, ça fait très longtemps que je pense qu'il ne veut pas arrêter la guerre. Il n'a pas intérêt, parce que le bilan, c'est une catastrophe. Et puis, il a la perspective de voir Trump élu demain en novembre aux États-Unis. Donc, je pense
Si Trump est élu, qu'est-ce que ça...
Alors, il y a eu des tensions entre Trump et Netanyahou, parce qu'au moment du 6 janvier, Netanyahou a avalisé l'élection de Biden. Et ça a beaucoup fâché Trump. Mais, quand même... Et Trump a fait quelques critiques de la politique de Netanyahou. C'est-à-dire, il y a un soutien très fort à Israël. En même temps, les États-Unis sont quand même obligés de tenir compte de leurs alliés arabes. Ils ne peuvent pas faire comme si ça n'existait pas. Mais c'est sûr que s'il y a l'élection de Trump, ça aura, je pense, en tous les cas, pour Israël-Palestine, des conséquences négatives en termes de politique internationale. Alors que pour le reste, je pense que ça ne sera pas pire que Biden, franchement. Mais bon, encore une fois, la question aujourd'hui, c'est d'arrêter les combats. Mais c'est vrai que... la question est pertinente, mais je ne vois pas je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer après. C'est-à-dire, il n'y a pas de perspective. Les Israéliens refusent. Ils refusent l'autorité palestinienne, ils refusent le Hamas, ils refusent tout. Donc, je veux dire, on ne voit pas vers quoi ça peut aller. Sinon, de se dire que, au moins pour nous qui sommes en France et des Européens, de se dire qu'il y a une bataille à mener pour que l'Europe soit plus active, pour que la France reconnaisse l'État palestinien. Il y a une décision du Parlement unanime de 2014 de reconnaître l'État palestinien. À l'époque, c'était Laurent Fabius qui était ministre des Affaires étrangères. À l'issue du vote, il dit « Écoutez, donnez-moi un an, on va faire une conférence pour la paix, et si ça ne débouche pas, on reconnaîtra la Palestine. » Ils ont fait la conférence, elle a échoué, et ils n'ont pas reconnu la Palestine. Et aujourd'hui, on sait que le gouvernement français a fait pression, par exemple, sur le gouvernement espagnol pour qu'il ne reconnaisse pas l'État de Palestine. Donc, on a un gouvernement français, il faut dire, qui est, je disais, dans les années 70-80, la France était à l'avant-garde de la défense du droit international et du droit des Palestiniens. Aujourd'hui, ils sont complètement à l'arrière-garde, et il faut faire pression pour que ça change.
Merci beaucoup, Alain Grèche.
Merci à vous.
Merci pour tous ces éclairages. Je rappelle bien sûr le titre de votre tout nouveau livre, Au lien qui libère, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Merci. Et je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que QG est un média à 100% indépendant, ce qui nous permet de faire entendre d'autres voix, de vous donner d'autres informations, notamment sur la situation à Gaza, que nous suivons activement depuis l'hiver dernier. Je vous invite donc à nous découvrir, à nous soutenir financièrement dès ce soir sur qg.media. À très bientôt, bonne fin de soirée.